Samedi prochain aura lieu la béatification d'un prêtre de notre région, Isabelle Duché.
Oui, le père Pascal Vergèze sera béatifié le 13 décembre à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Prêtre des Hautes-Pyrénées, il est reconnu par l'Église catholique comme martyr en haine de la foi. Nous le découvrons ce matin avec Pascal Leroy-Castillo, responsable du service des archives et du patrimoine du diocèse de Tarbes et Lourdes. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors, ce père Pascal Vergèze, il est né le 17 mars 1910 à Aucun, c'est donc dans les Hautes-Pyrénées. Il est ordonné prêtre pour le diocèse de Tarbes à l'âge de 25 ans. Il a été professeur au petit séminaire de Saint-Pé-de-Bigorre. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale va faire prendre à sa vie une tournure particulière. Quel a été son parcours pendant ce conflit, Pascal Leroy Castillo?
Donc pendant le, en fait, d'abord il est né le 27 mars.
Ah,
vous avez évoqué le 17 oui. mars, oui, mais parce que un certain nombre de sources mentionnaient cette date, mais dans le cadre des recherches que nous avons menées, nous avons été amenés à faire un certain nombre de vérifications, dont celle-ci. Voilà. Donc en tant que prêtre. Il a été mobilisé en 1939 et il a dans un régiment de Brive et au cours de combats il a été fait prisonnier et à ce moment-là déporté en Allemagne comme un certain nombre d'autres jeunes Français. Puisque ce qui est important de mentionner, c'est que cette cause de béatification, c'est une cause collective.
Oui, mais ça, on va en parler. Oui, oui.
Voilà.
Ça, c'est important. Mais j'aimerais bien. Est-ce que vous pouvez continuer à peut-être nous raconter voilà. Donc, il a été fait prisonnier de guerre. Et,
voilà,
et qu'est-ce qui s'est passé après?
Donc, il est fait prisonnier. Il est envoyé en captivité en Allemagne dans un stalag. Il va être désigné pour un commando, c'est-à-dire qu'il va être amené à travailler en tant que prisonnier. Et lui, il va travailler dans un laboratoire d'usine chimique. À ce moment-là, comme il est prêtre, il a une fonction d'aumônier dans le camp. Et donc, il accompagne spirituellement ses co-détenus.
Donc, en fait, il a cette, entre guillemets, double casquette de travailleur et puis aussi d'aumônier. Même quand il était sur le front, il n'était pas juste aumônier, il était vraiment soldat.
Travailleur
quoi.
Aussi. Ouais. Oui, alors, il était dans le service de santé. Mais il travaillait la journée dans une usine chimique et en parallèle et en complément, il était aumônier dans le camp.
D'accord. Donc il célébrait, on imagine, en tant qu'aumônier, la messe.
Oui.
Il a été arrêté le 20 septembre 1944 parce qu'il célébrait des messes clandestinement. Qu'est-ce qui s'est passé après son arrestation?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, dans le cadre de l'aumônerie générale des déportés qu'animait Mgr Rodin, les aumôniers avaient un statut particulier qui reconnaissait cette mission au sein des camps et donc ils pouvaient exercer leur mission, je dirais. En 43, les choses vont changer. Il y a la mise en place du STO, le service du travail obligatoire. Et là se pose la question pour l'abbé Pascal Vergèze de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre chez moi, quelque part? Ou est-ce qu'à ce moment-là, le statut ayant changé, je m'engage comme travailleur volontaire pour continuer à accompagner mes frères qui, eux, dans le cadre du STO, continuent à être dans ces conditions difficiles de travail et d'emprisonnement, quand même. Hein.
Donc, il savait qu'il prenait un risque là, s'il prenait cette
oui,
décision.
Oui, alors là, il se pose des questions, d'ailleurs, puisqu'on a retrouvé une de ses lettres. Il écrit à Mgr Rodin, il lui dit qu'est-ce que je fais? On sent que vraiment il ne veut pas abandonner ses frères. À ce moment-là, Mgr Rodin l'encourage à continuer, puisque Mgr Rodin pense que le statut de ses aumôniers va continuer à être le même Et en fait, ce que l'histoire va montrer, c'est que le régime nazi ne va pas respecter cela. Et à partir du moment où il s'engage volontairement et qu'il est dans le cadre du STO, je dirais, il ne peut plus exercer aussi facilement. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment
oui,
le
c'est
terme.
Oui, c'est ça, parce qu'il y avait cette ordonnance... Cette ordonnance Kaltenbrunner, là, qui est parue le 3 décembre 1943, qui demandait purement et simplement l'élimination de tous ceux qui menaient une activité religieuse auprès des jeunes travailleurs voilà. civils français. Donc là, c'était
ouais,
clair.
Tout à fait. Oui, là, c'était clair. Mais lui, donc, il est sur place et il va continuer, en fait. Alors, il sait qu'il est menacé. Il doit, j'imagine, prendre... certaines précautions, mais oui. il continue à exercer pleinement sa mission et son engagement de prêtre. Et comme vous l'évoquiez, il est arrêté en septembre 1944. Et le motif de son arrestation, c'est d'avoir célébré clandestinement la messe.
Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après son arrestation pour ce père Pascal Vergès?
Donc, il est arrêté par la Gestapo. Il est mis en prison. Là, son état de santé va se détériorer. On imagine aisément les conditions de détention.
Il a été dans des camps. Il a changé d'endroit
oui.
de détention.
Oui, il a été dans un camp de travail à Spergo, puis après à Sachsen. C'est là où il va finir sa vie. Il a fait un passage en prison. Donc on a des témoignages sur le manque de nourriture, les conditions d'environnement, le froid, la détention, les violences qu'il a pu subir. Voilà, c'est vraiment martyr.
Oui,
martyr.
C'est ça. Et donc, il
a
est mort.
Il a été violenté dans sa chair.
Ah, oui, c'est ça. Donc, il est mort de tous les sévices qu'il a pu recevoir et puis du typhus, nous disait Anne-Rose Jankovic dans le tour des diocèses il y a quelques minutes.
Oui, on sait qu'il tombe malade. Et donc, la maladie et les violences et l'environnement font qu'il meurt d'épuisement. À ce moment-là.
Oui. Alors, l'Église le reconnaît comme martyr en haine de la foi pour avoir donné sa vie à cause de son ministère sacerdotal en période de persécution. Le père oui. Vergès sera donc béatifié ainsi que 49 autres martyrs le 13 décembre. Est-ce que vous pouvez, sans évidemment nous donner le portrait de chacun des bienheureux, mais nous dire un petit peu qui ils sont?
Alors, ces 49 martyrs, plus le père Pascal Vergès, déjà, ce sont des jeunes hommes. Ils ont, pour beaucoup, 19, 20, 20 ans, même si certains vont jusqu'à la quarantaine. Parmi eux, on compte 33 laïcs, des scouts de France, des jossistes, membres de la jeunesse étudiante chrétienne, la JEC. Il y a également des séminaristes, 9 prêtres diocésains et 5 religieux. Donc vous voyez des hommes engagés par leur foi, avec leur foi, à la fois dans le sacerdoce, dans les ordres, mais aussi pour beaucoup d'entre eux dans des mouvements d'action catholique.
Oui, c'est ça, d'engagement chrétien dans la société. Pascal oui. Leroy Castillo, qu'est-ce que ça signifie? Comment on peut comprendre cette cause collective de béatification?
Je crois que la dimension collective, ça montre à la fois... je dirais c'est un tout et c'est des individus, c'est-à-dire que ce sont des hommes qui ont eu, comme vous l'avez souligné, des engagements différents dans l'Église, mais qui à un moment de l'histoire ont vécu une même tragédie et tous sont allés à leur manière au bout de leur engagement.
Oui, oui, c'est effectivement beau et cette célébration samedi 13 décembre sera certainement magnifique. Quel exemple le père Pascal Vergès laisse-t-il aux prêtres en particulier?
Mais pour les prêtres, d'ailleurs, il y a une phrase de lui, il dit « Prêtre, je le suis, prêtre, je le serai jusqu'à ma mort ». Et c'est véritablement ce qu'il a vécu. Ce qui est aussi très touchant, c'est qu'en fait, il a un parcours, je dirais, assez classique pour l'époque. Un jeune homme qui fait le petit séminaire, le grand séminaire, il est enseignant au grand séminaire. Comme beaucoup d'autres prêtres de cette époque-là. Et en fait, de par ce qu'il va vivre en déportation, il va devenir extraordinaire et par son engagement plein et entier et sa fidélité au Christ et à son mystère.
Oui, c'est ça. On retiendra ce mot de fidélité. Et pour l'ensemble du peuple de Dieu, comment la figure du Père Vergès peut-elle le guider dans sa foi?
Ben, je pense que là aussi, c'est un homme qui... il est né au fond d'une vallée pyrénéenne, rien ne le prédestinait à un parcours exceptionnel, mais dans une période troublée de l'histoire, il a été exceptionnel dans sa fidélité, son humilité et dans le fait qu'il est allé jusqu'au bout en fidélité à son engagement. Je crois que c'est ça vraiment, hein, c'est... un parcours somme toute, il aurait pu, je dirais, avoir une vie tranquille, continuer son ministère, ce qui aurait été fort honorable au fin fond de sa vallée pyrénéenne. Mais là, dans des conditions tragiques, il a été à la fois dans l'humilité et dans la fidélité, fidèle à son engagement, et il a donné sa vie. Pour le Christ et pour les hommes qui l'accompagnaient.
Oui, c'est ça. Alors, précisons que la reconnaissance du martyr pour reine de la foi ne nécessite aucun miracle. Est-ce que vous avez néanmoins trouvé dans les archives du diocèse de Tarbes-et-Lourdes des signes qui manifestent la sainteté du Père Vergès?
Alors, on a retrouvé des lettres, alors pas dans nos archives à nous, mais dans les archives qui ont pu être collectées dans le cadre de la cause, des témoignages de co-détenus. Il y en a un, par exemple, un témoin de ces dernières heures à l'infirmerie du camp, qui dit « Il était magnifique de courage, et dans ce local infect, il est resté jusqu'à sa dernière heure témoin de Jésus-Christ. Aussi, dit-il, je suis certain qu'il est mort martyr pour sa foi et en fidélité à son sacerdoce. »
Mais il avait vu juste.
Voilà, on a des témoignages de témoins qui l'ont approché et qui ont vu son don total. Depuis qu'on a appris sa béatification, il y a Monseigneur Perrier qui a écrit une prière d'action de grâce, qui a été d'ailleurs largement diffusée dans notre diocèse à l'occasion du pèlerinage diocésain. Et donc les diocésains et plus largement les chrétiens et ceux qui le souhaitent sont invités à prier pour ce don de ce prêtre pour l'Église et pour le monde.
On comprend en tout cas à travers ce que vous dites, Pascal Leroy Castillo, que cette béatification du Père Vergès, c'est vraiment le début d'un chemin. Alors je précise, cette béatification, samedi 13 décembre à 14h30, qui pourra être suivie sur Radio Présence et sur KTO, parmi le père Pascal Vergès, parmi les 50 martyrs français morts par haine de leur foi sous le régime nazi en 1944 et 1945. Merci beaucoup, Pascal Leroy Castillo. Je rappelle que vous êtes la responsable du service des archives et du patrimoine du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Et merci de nous avoir fait découvrir ce matin cette figure du père Pascal Vergès. Bonne journée.
Merci à vous et bonne journée. Au revoir.